positive Onde. Une immersion proposée par Seb Dill.
Tiens.
Écarissage des bois à la hache, piquage au fil à plomb. Aujourd'hui, dans Positive Onde, on s'intéresse de près, de très près, au métier de charpentier à l'ancienne.
Charpentier, qu'est-ce que c'est? C'est un métier du bois, c'est un métier tout ce qui a trait à la charpente. Donc c'est des ouvrages en bois avec des grosses sections, à la différence de la menuiserie où c'est des ouvrages d'intérieur. On va dire que la charpente c'est plus du gros œuvre.
J'étais un charpentier.
Et des clous, je dois en avoir. Je n'ai dans le camion là. Là, on va sur ce qu'on appelle l'aire d'écarissage. C'est un endroit où on se fait livrer des grumes par un forestier, un bûcheron qui nous coupe des troncs d'arbres en chêne.
Les grumes, c'est des troncs d'arbres?
Ouais, c'est des troncs d'arbres. Et du coup, on lui demande, alors soit on, si on peut, on va les sélectionner dans la forêt, mais ça dépend un peu des périodes. Sinon, on lui commande, selon ce qu'on a besoin, les longueurs qu'il nous faut et les diamètres nécessaires pour les pièces de bois de l'ouvrage qu'on va réaliser. Et du coup, là, on va dans un champ où c'est facile pour lui de nous les livrer. Et c'est là où on taille, on écarisse, ce qu'on appelle écarir. C'est mettre d'équerre une grume pour faire une poutre ou un bois carré à l'intérieur.
Et toi, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom?
Je m'appelle Baptiste Biot, je suis charpentier à l'ancienne depuis 4 ans maintenant. Suite à des rencontres, je me suis beaucoup intéressé à ce qu'on appelle la charpente traditionnelle à l'ancienne, à savoir la charpente avec les procédés de charpente qui se pratiquent depuis la nuit des temps avec des outils manuels.
Moi, c'est Raphaël Parseillan, j'ai 40 ans. Au cours de ma formation, j'ai rencontré Baptiste lors d'un stage. Et voilà, je lui ai dit que j'avais envie de continuer à bosser avec lui. Et voilà, et donc on bosse tous les deux aujourd'hui.
Moi, c'est Seb et je vais les suivre. On va les suivre.
Et là, on n'a pas besoin d'électricité, on est dehors, on entend les oiseaux et on est bien. Voilà. Comme on débite, ça fait beaucoup de copeaux, tout ça, on ne le fait pas dans un atelier. On laisse les copeaux dans l'herbe, après ça fait un paillage et ça fait, voilà, on n'a pas besoin de nettoyer tout ça, quoi. C'est bien de le faire dans un champ, c'est ce que faisaient les charpentiers à l'époque, ils le faisaient directement dans la forêt, là où les arbres étaient abattus. Et après ils transportaient les morceaux de bois qu'ils avaient besoin pour réaliser les charpentes. Quoi. Là, on est devant le tas de bois là, qu'on nous a livré pour faire une charpente en chêne. Et on va s'attaquer à tailler des poteaux pour un pan de bois qui va être vitré, là, pour un chantier à un pan de bois.
Donc là, on connaît déjà ses dimensions, on sait déjà les longueurs que l'on va utiliser.
Voilà, ouais. Là, au préalable, on fait des plans et du coup, on fait une feuille de débit où on choisit les sections des bois par rapport à leur positionnement et après par rapport au bois qu'on a là en stock, et ben on regarde à l'intérieur quelle section on peut faire et comment on va la tailler. L'avantage qu'on a avec cette technique là, c'est que le bois, même s'il est tordu, et ben on va quand même pouvoir s'en servir pour le placer à certains endroits dans une charpente. Et donc là, y a, au début, donc là, on arrive et on a une phase d'observation sur quel morceau de bois va se prêter à telle pièce. Et là, ce qu'on va faire, là, ce qu'on a besoin de faire là maintenant, c'est des poteaux pour soutenir. Donc du coup, il faut que ça soit plutôt droit, pas trop tordu pour éviter de perdre beaucoup de matière et même au niveau des assemblages pour que ça soit un peu homogène, quoi. On se rapproche ça et on pivote, non?
Ouais. Allez. Ou sinon on utilise lui là. Et on se met comme ça, non?
Lequel?
Le gros là. Celui qui fait mettre. Si on le met juste comme ça, tu vois.
Ouais, mais là c'est assez long. Hein.
Alors là déjà j'ai besoin de décrire parce que vous déplacez un tronc assez gros, assez lourd avec juste un. Très aisément on dirait avec ce petit. Alors cet outil
c'est
qui s'appelle comment?
Tournebille.
Un tournebille.
Tournebille.
Alors la bille c'est ce tronc que j'appelais tronc.
Exactement, c'est ça.
Ou une grume. Alors en fait c'est juste, c'est comment expliquer? C'est un espèce de bois, de manche avec un pic au bout et une partie qui pivote.
En fait, et on vient coincer la partie qui pivote. Et après en fait il y a des dents donc, qui sont sous le bois. Et en fait quand on bloque les dents, la partie qui pivote elle se plante parce qu'il y a un petit crochet. Et ça nous permet de tourner un bois d'une certaine dimension en faisant un bras de levier. Donc de manière assez facile quoi.
De certaines dimensions oui parce que là je sais pas son poids mais là tu le tournes d'une main tranquillement là.
Tranquillement ouais. À une main.
On est quoi sur un poids là on estime à combien?
Ouais je dirais je sais pas.
Plus de 100 kilos.
Ouais 150, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça.
C'est un outil qui est encore utilisé en bûcheronnage là, quand ils déplacent des bois en forêt les bûcherons. C'est le tournebille, c'est indémodable. Et il y a aussi une sapie, mais là on n'en a pas. C'est le même principe, c'est un manche avec au bout un pic en fer qui est de biais. Et en fait celui-là il permet de lever des grumes pour après venir y glisser un autre morceau de bois pour pouvoir le surélever.
Pour caler, ouais.
Celui-là il tourne et il permet le tournebille il tourne la bille et il permet de le déplacer et la sapie elle permet de soulever et de donner une direction pour le manœuvrer en fait. L'idée là c'est comme on a des grosses sections de bois, on peut pas les porter et puis il faut se préserver notre santé. Et donc du coup à travers des outils de levier en fait beaucoup on déplace aisément les morceaux de bois. Mais là, on va faire une démonstration. Enfin, là, il faut qu'on déplace celle-là. Là.
Ouais. Ça va rouler. Juste,
hein. Ouais, fais-le rouler.
Les charpentes françaises sont différentes des charpentes japonaises ou d'Amérique. Voilà, chaque charpentier va travailler sur un toit d'une maison ou sur les gros ouvrages d'une maison. Mais après, selon la culture, selon les essences de bois, ça diffère selon le type d'ouvrage et les compétences de l'artisan, quoi.
Donc maintenant, là, une fois qu'on a mis la grume en place pour pouvoir travailler, elle est à hauteur, elle n'est pas contre le sol pour éviter que les outils touchent le sol et que ça abîme l'affûtage de nos haches. On l'a mis sur ce qu'on appelle des chantiers, donc là, les chantiers, c'est deux troncs et c'est à hauteur pour travailler sans trop se casser le dos. Là, cet objet-là qui vient de planter, là, on entend, ça s'appelle une clameau. Une clameau, c'est une sorte de grosse agrafe en métal qui permet de maintenir un cylindre, donc un tronc, dans la position qu'on veut. Enfin, ça évite qu'elle tourne. Au moment où on va venir la travailler, elle est immobilisée. Et ça a vraiment la gueule d'une grosse agrafe en forgée, quoi.
Ok.
C'est bon là, tiens.
Ouais.
J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque, j'entends dans le grenier, chanter mon châtaignier.
Les bois qu'on utilise en charpente dans nos régions, ça sera principalement du chêne et du châtaignier. Dans le centre de la France, on utilise aussi le peuplier. Et puis maintenant, on utilise du sapin et du douglas qui sont issus souvent de cultures qui sont quand même plus industrielles. Nous, en tout cas, on utilise principalement chêne et châtaignier.
J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque, j'entends dans le grenier, chanter mon châtaignier.
Nous, on travaille le chêne et le châtaignier. Après, là où on est dans les monts du Lyonnais, il y a très peu de châtaigniers parce qu'il y a eu une maladie du châtaignier. Du coup, on dit qu'ils sont roulés, donc on les utilise peu. Mais par contre, on utilise du chêne. Alors après, on a un peu des ovnis dans la région parce que la plupart des charpentiers du coin travaillent qu'avec des scieries ou c'est du bois d'exploitation. L'avantage du chêne, c'est un bois où il a un tanin qui est dit insecticide, fongicide, et en fait c'est un bois qui résiste à l'extérieur. Donc il n'y a pas besoin de traitement, à la différence du sapin, où le sapin c'est un bois qui est tendre et du coup il va être plongé dans des cuves chimiques pour le rendre efficace sur l'extérieur, alors que le chêne et le châtaignier ont des propriétés de bois d'extérieur, de bois d'œuvre. En fait, c'est vraiment des bois qui sont valorisés pour la construction et qui ont un avantage d'avoir une très grande solidité et de tenir dans le temps. Voilà, on retrouve des chênes qui ont 400 ans, 500 ans sans problème et qui sont durs comme de la pierre. Donc nous, ça nous intéresse de travailler avec ce genre d'essence, comme ça on est tranquille, on travaille sur un chantier et puis on sait que pendant 50 ans, 100 ans, les bois vont tenir.
Solide, 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 solide comme l'eau qui glace, solide, 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 solide comme le temps qui passe.
Du coup, tu traces d'un côté, je trace de l'autre.
Ouais. Ça va le faire là ?
Ouais, c'est bon, il y a de la place.
Alors.
Là, pour expliquer l'étape qu'on est en train de faire, donc notre tronc, il est dans le sens de la longueur, c'est un cylindre. Et en fait, au bout, là où ça a été coupé, eh ben, on a une face qui est plate et on va dessiner la section finale du bois. Donc là, on est parti sur un poteau qui va faire, on dit 15-15, donc c'est 15 cm, ça va être un carré, quoi, sur une poutre carrée, qui va faire 15 cm par 15 cm. Pour ça, en fait, on sert, une fois qu'on a immobilisé la grume, on sert d'un niveau ou d'un fil à plomb. Nous, on est plus niveau parce que c'est pratique. Et on trace l'aplomb, ce qu'on appelle l'aplomb, donc c'est un trait vertical.
Et le niveau, ce sera l'horizontalité.
Voilà. Du coup, on trace ça au milieu de notre bout de grume. On se retrouve avec une croix qui va matérialiser les axes de notre section de bois, et après on reporte les 15 cm de partout pour avoir notre section carrée.
Là, j'ai bien compris, on le trace sur la base du coup de la grume, mais comment on fait pour le retrouver après quand on va entailler sur, j'imagine qu'on va après attaquer la hache dans la longueur, la grume.
Voilà. Et là, alors là, après, une fois qu'on aura tracé des deux côtés nos sections, on va se retrouver en bout avec deux carrés. Et on va reporter les points, on va travailler par plan en fait. Donc du coup, on va se retrouver avec, si je le dessine là, on va se retrouver avec ce plan-là qui tape sur ce côté-là de la grume, et là aussi. Et de l'autre côté, on a pareil. Et en fait, à l'aide d'un cordeau, on va venir, ce sera l'étape d'après, on va venir claquer cette face-là. En fait, l'idée, c'est qu'il faut prendre un cercle, à l'intérieur on dessine un carré, prolonger les faces de chaque carré qui vont toucher le bord d'un cercle, et après d'aller de matérialiser sur la longueur de la grume cette face-là, qui c'est la partie qui va être enlevée en fait, pour qu'on se retrouve avec un plan, avec quelque chose de droit et non plus de circulaire.
Alors, j'aurais dû me douter en même temps qu'en venant vous voir, on allait taper dans les maths là.
Ouais, il y a un peu de mathématiques dans l'espace à...
La synthèse de l'aspirine fut réalisée pour la première fois par un savant français, Guérard, en 1853. L'aspirine usine du Rhône, l'aspirine française, n'a pas la prétention d'être au-dessus de tout autre, mais elle prétend qu'aucune autre ne lui est supérieure.
Ah, ça va mieux.
Merci, l'aspirine, usine du Rhône.
À la différence des scieries, donc nous c'est un arbre, une pièce. La scierie, elle va valoriser plutôt des gros bois, où en fait, à l'intérieur de donc un diamètre qui est assez gros, elle va essayer de faire le plus de pièces possible. Et ce qui va avoir comme particularité, c'est que souvent la scie, enfin la lame de la scie, elle va couper l'arbre à cœur, donc là où il y a le cœur de l'arbre, ce qui est l'intérieur, le milieu de l'arbre. C'est une méthode, toutes les scieries font ça. Ça a la particularité d'avoir des bois qui vont travailler, ce qu'on appelle travailler, c'est qu'ils vont bouger, parce qu'en fait un bois, ça reste un matériau qui est quand même assez vivant. Et du coup, à l'endroit du cœur, il y a tout un tas de rétractation, de dilatation, qui fait que le bois il vrille ou il va se tordre un peu. Et donc du coup là après c'est une autre manière de travailler avec ces bois-là. Il faut faut tout le temps tenir compte de comment a été découpé le bois et de le positionner correctement sur une charpente pour que les efforts qui vont lui être demandés soient annulés par la contrainte de comment ça a été scié.
Et si je comprends bien, si je suis cette logique, si on veut faire des sections plus petites, genre je sais pas, du chevron de 5x5, on va aller taper dans des grumes plus fines.
Pour nous en équarrie, oui, on va faire, on va aller taper dans du, si c'est du 5x5, bon c'est pas un chevron, mais si c'est du 10x10, et eh ben...
Ah parce qu'il y a une appellation chevron, c'est 5x5, ouais, ça marche pas pour un chevron.
Là ouais, ça marche pas, en fait...
j'ai tenté. Hein.
En charpente, il y a tout un vocabulaire, il y a beaucoup de termes qui sont associés. Sur un morceau de bois, on dit pas un morceau de bois, il a un nom selon là où il va être positionné. Et aussi, il y a un peu des conventions sur la taille des pièces de bois, selon leur nom en fait, en fait la taille elle est beaucoup liée à la portée, c'est la longueur de deux points d'appui et qu'est-ce qu'il va avoir comme charge posée dessus. Donc ça va, et puis son positionnement dans une construction d'une charpente. Et donc voilà, pour le chevron, là ce que vous disiez comme exemple, c'est souvent du 6-8. Et après, nous si jamais on était amené à faire des chevrons en équarrie, en bois équarrie, faudrait prendre des troncs de 12-15 cm de diamètre pour après à l'intérieur avoir quelque chose comme ça.
Effectivement, donc la réflexion de se dire qu'en fait on dimensionne en fonction de la pièce qu'on a besoin de faire, effectivement c'est ça, c'est-à-dire qu'on va chercher dans les grumes, les grumes qui correspondent le plus aux sections dont on a besoin. Donc si on va faire un arba, ben on va prendre une section qui va être plus importante, on va chercher peut-être à faire un 15-20 ou un 20-20, on prendra forcément une grume qui est beaucoup plus grosse, puisque en fait, vu qu'on retire quand même une bonne partie de l'arbre, et ben en fait on cherche toujours à avoir le cœur qui correspond à la section dont on a besoin.
Il y a tout un tas d'outils propres à la profession. Il y a déjà tout ce qui est les outils pour trancher, donc pour scier. Il y a la scie égoïne, c'est une scie la scie classique que tout le monde connaît. Elle coupe la fibre du bois en poussant. Après, il y a aussi de plus en plus les scies japonaises où c'est à l'inverse, les dents sont inversées par rapport à la scie égoïne. Après, dans les outils de scie, il y a les passe-partout, donc c'est une grande scie qui se prend à deux, dans les images anciennes de représentation de charpente, on en voit beaucoup. Ensuite, dans les outils manuels, il y a les ébauchoirs, c'est un ciseau à bois en métal, donc ça c'est propre aux charpentiers. C'est pour faire des entailles, des trous, des mortaises. Ensuite, dans le même style, il y a la bise aiguë. C'est vraiment un gros outil qui est en métal. D'un côté, il y a ce qu'on appelle une bédane et de l'autre côté, il y a un ébauchoir. Donc, c'est un outil qui s'utilise juste avec la force des mains, qui est vraiment un outil traditionnel pour réaliser des mortaises surtout. Ah, l'outil le plus important du charpentier, c'est la jauge. Donc, la jauge du charpentier, c'est une règle en fer, hein, en métal, ouais, qui fait 35 cm de long par 3 cm de large. Et en fait, c'est vraiment l'outil de base du charpentier, parce que la plupart des assemblages ou des tenons vont tout le temps faire 3 d'épaisseur. Donc du coup, on se sert de cet outil-là pour tracer. Et il a, c'est un outil qui est très bien pensé parce qu'il est recto verso, il s'inverse, donc on peut à tout moment prendre une cotation en se bloquant contre un mur. Il est gradué sur 15 cm, tous les centimètres et les millimètres sont gradués, et au-delà, c'est juste les centimètres qui sont gradués. Ce qui permet, avec un crayon, quand on a besoin de reporter une cotation, et bah de venir tracer sur notre morceau de métal la cotation et la reporter ailleurs. C'est l'outil classique qui se complète forcément avec le crayon du charpentier, qui est un grand crayon qui doit faire bah pareil 35 cm de long à peu près. Et en fait, on a une particularité dans la taille du crayon, c'est on va le tailler en biseau, mais avec un plat d'un côté pour matérialiser toujours une face. Donc un crayon de charpentier, ça se taille forcément au ciseau à bois, jamais au cutter ou au taille-crayon, de toute façon on ne rentrerait pas dedans. Et c'est vraiment les deux outils qu'on a tout le temps dans notre poche, ainsi que aussi dans les accessoires là, du charpentier. Il y a souvent le pantalon, qui s'appelle un largeau, qui est un pantalon où il y a la petite poche pour mettre son crayon et sa jauge, et qui a aussi une largeur entre les jambes pour pouvoir manœuvrer sur les toits sans être encombré par le pantalon, et qui a une bonne résistance aussi à tout ce qui est arrachement, clous, tout ça. Donc c'est vraiment l'accessoire du charpentier sur chantier.
On va écorcer, puis après on va claquer le cordeau pour avoir
la trace. Donc là, on enlève l'écorce parce qu'au moment où on va claquer un cordeau qui représente notre plan, il faut qu'on puisse le voir, et d'où l'étape d'écorçage à l'aide d'une plane à écorcer.
C'est un morceau de fer quand même assez plat et légèrement courbé, avec un seul tranchant, donc à la différence d'une hache classique qui va avoir deux biseaux, là il n'y a qu'un seul biseau. Et donc l'idée, c'est un peu comme un hachoir à herbe en cuisine, mais monté à l'envers. Donc en fait, on va l'utiliser en tirant vers nous, et ça va nous permettre de d'écorcer l'arbre. Ça a plein de fonctions, hein. ça sert aussi au menuisier, mais là en l'occurrence celle-là elle est bien grande, donc nous on s'en sert pour écorcer.
Là, on est à l'étape finale de l'écarissage où, en fait, à l'aide d'une hache qui a qu'un seul biseau, on vient vraiment peaufiner la face de notre poutre. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est une hache d'origine allemande qui s'appelle une Breitbell, qui a un manche déporté. En fait, ce qui fait que dans nos mouvements, notre main ne vient pas toucher le bois ou ça nous évite de nous faire mal. Et la hache, elle a un profil avec qu'un seul biseau et une grande partie plate qui vient faire le plat, en fait. C'est pas les haches classiques, elles ont deux biseaux pour vraiment rentrer dans le bois. Celle-là, non, on ne cherche pas à rentrer dans le bois, on cherche à l'éplucher pour arriver à avoir quelque chose de plan, quoi. C'est le final, c'est pas raboté nos bois, ils vont pas être rabotés, ils vont pas être poncés. Ça va vraiment c'est vraiment ce qui donne l'aspect final du bois. Et du coup, souvent dans les vieilles bâties ou dans les vieilles charpentes, on sait si un bois est carré parce qu'il y a des petits coups de hache qui sont un peu de biais au milieu de la face. Nous, ce qu'on trouve joli là-dedans, c'est que chaque pièce de bois est unique et elle a une histoire, parce que il y a eu des coups de hache et elle a une forme, elle n'est pas tout à fait régulière, elle est...
Entre charpentiers qui font de l'écarissage, par exemple sur un même chantier, on peut repérer en fait qui a fait telle poutre en fonction de son coup de hache finalement. Voilà, parce que en fait chacun va avoir un peu son petit défaut qui peut aussi faire sa qualité.
C'est bon, là on a toutes les pièces, non?
Ouais.
Donc là on va charger et puis on va monter à l'atelier pour tailler.
Alors on va essayer, tiens, le claquement de doigts. C'est pas mal de charger le camion au claquement de doigts. Je vous propose, on claque des doigts et on arrive à l'atelier. Le camion a été chargé et déchargé. On essaye? Allez, 3, 2, 1.
Bon, on commence par l'épure.
Non, on commence par dire que le claquement de doigts était efficace et que le camion était chargé, on voilà. a fait le déplacement, déchargé.
Voilà, on a déchargé tous nos morceaux de bois.
Moi, je vous conseille de le faire tout le temps au claquement de doigts, ça marche.
Ah oui, allez, hop. Donc, là, super, on a tous les bois qui sont à dispo et on les a rangés par rapport à notre, nos besoins. Donc, les bois dont on va se servir tout de suite, on les a mis en dernier et ceux dont on va en avoir besoin à la fin, on les a mis en dessous.
En avoir besoin, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fabrique là ?
Alors là, on va fabriquer, là, on va faire une épure d'une ferme de charpente, une ferme latine, c'est une ferme traditionnelle avec différents éléments. Il y a donc du coup les pièces de bois, elles ont leur nom. Donc là, la grosse pièce qu'on voit là, c'est un entrée, c'est la pièce horizontale. Ensuite, les deux pièces qui sont un peu plus larges, c'est des arbalétriers. Qui, c'est les pièces qui forment le triangle d'une ferme et qui vont servir de support aux pannes. Les pannes, elles sont un peu plus loin, elles sont en attente, on les prendra à la fin du chantier. Et ensuite, il y a la petite pièce, là, c'est le poinçon, c'est la pièce qui est au milieu qui vient relier les deux arbalétriers entre eux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'au sol, donc là, sur notre dalle qu'on a au sol, on va tracer à taille réelle les bois et à l'endroit où ils vont se croiser. Le principe, c'est qu'on va tracer les axes de nos bois. Donc, qu'importe qu'ils soient tordus, là, on les a tous délignés. Donc, on a matérialisé sur chaque face l'axe du bois pour les positionner les uns par-dessus les autres. Donc là, l'étape maintenant qu'on va faire, c'est l'épure.
Et oui, ça marche bien le claquement de doigts, je vous le conseille.
Tu te mets à 10. Ouais. Vas-y, du coup, 365.
Ouais, plus 10.
Hein. Plus 10, ça fait 375. Ok. C'est bon.
Ensuite, je mets à 10.
Avec les 10.
Ouais.
Ok.
C'est bon, on a tout là. Hein. Ouais. Alors on commence par. On se pose l'arba, non ? L'entrée et après on pose les arbas par-dessus.
Ouais. Tiens, un traiteau.
T'as le niveau ?
Ouais.
Donc là on met toutes les pièces de niveau pour qu'elles soient toutes de plan. Donc là, pour l'instant, il n'y a qu'une pièce, c'est plutôt facile.
Ouais,
il faut un coin, là.
Ça, c'est le son de l'ébauchoir.
Ouais, donc là, c'est métal contre métal.
Et je l'entends.
Et l'ébauchoir, c'est un grand fer avec un seul biseau. Donc là, c'est un ébauchoir de 40, donc 4 cm de large, ce qui nous permet de faire un trou de 4 cm de large. Et là, en profondeur, parce qu'on a décidé de faire un tenon de 9 cm, on va creuser sur 10 cm. Donc là, on tape, on enlève la matière, on enlève les copeaux, et puis on prend notre temps.
Ah, on prend notre temps, oui, mais le temps file. Et nous ne sommes même pas montés sur un toit.
Le vertige, en fait, d'une manière générale, ça participe toujours au métier. Enfin, en tout cas, je peux parler pour moi. En fait, on a toujours une appréhension le matin quand on arrive sur le toit. On va pas forcément être aussi à l'aise qu'en fin de journée. Et en tout cas, moi, je parle vraiment de je pense que c'est aussi un rapport. Hein, c'est un rapport au vide. Donc chacun va avoir son rapport, j'imagine, au vide. En tout cas, ce que je pourrais remarquer, c'est que en fait, on va petit à petit s'habituer et que quelque chose qui nous paraît comme impossible au début, finalement, assez rapidement, on n'y fait même plus attention, quoi, et voilà. Par contre, c'est sûr que si on n'est pas capable de mettre un pied enfin, il faut quand même avoir une certaine appréhension du vide, ouais. C'est ça, c'est sûr que c'est un métier où on est perché, quoi, donc forcément, bah, il faut aimer un petit peu le vide, ouais.
Un grand merci à Baptiste et Raphaël pour l'accueil lors de cet enregistrement. Pour en savoir un petit peu plus et surtout voir des photos, il y a la page Facebook Bio Construction. Merci pour leur participation bien involontaire à Johnny Hallyday, Blancas, Jean Ferrat, Alexandra Mussard. Musique additionnelle, John Bartman.
Positive onde.
Sur votre radio préférée, puis en podcast sur toutes les plateformes. Info sebdihl.fr. sebdihl.fr.